Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut c'est nos ciné, oui, oui, vous ne rêvez pas, on est encore un peu là, mais avant notre hiatus à durée à déterminer, on s'est dit que c'était sympa de vous laisser avec un petit dernier pour la route. Et on vous gâte car non seulement nous allons parler d'un film qui sort au cinéma ce 22 janvier, Adoration, mais en plus nous recevons dans nos studios son réalisateur Fabrice Duvels. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Pour en parler et pour assaillir de questions notre invité, j'ai nommé deux essentiels de l'émission, à savoir Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane.
Salut Perrine.
Et Julien Dupuis. Bonjour Julien.
Salut Perrine.
Allez, c'est l'entretien made in nos ciné et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Fabrice, Adoration est votre sixième long métrage, après notamment Calvaire, Vignane ou le récent Message from the King. Et il suit Paul, un jeune adolescent vivant avec sa maman aux abords d'un hôpital psychiatrique où elle travaille. Un jour, Paul croise le chemin de Gloria, une nouvelle patiente de la clinique. Tombé fou amoureux de cette adolescente trouble et solaire, comme le dit le synopsis, Paul s'enfuit avec elle, loin de tous et surtout des adultes. Au casting, on retrouve la révélation de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, j'ai nommé Thomas Gioria, ainsi que la jeune comédienne belge au CV déjà très très bien rempli, Fantine Arduin. Ils sont entourés à la fois d'un habitué de votre univers, Fabrice, j'ai nommé Laurent Lucas, et d'un nouveau venu chez vous, Benoît Poulvorde. Donc Fabrice, Adoration, c'est le troisième volet hein, d'une trilogie, on peut dire ça, une trilogie ardennaise, qui est composée de Calvaire et Alléluia, et maintenant Adoration. Et en plus du prénom Gloria qui traverse ces films, on retrouve à nouveau une patte que j'ai envie de qualifier de élégiaque. Est-ce que ce serait un bon mot pour qualifier Adoration ?
Oui.
Oui, voilà, dire, fin de question, merci beaucoup.
On peut dire ça, oui. C'est sûr qu'il y a une volonté lumineuse. Il y a une volonté d'absolu et de lumière, de grande lumière et pratiquement de lumière divine, puisque qui transparaît par. Enfin, elle est à l'aune de la lumière du petit Paul, ici. Donc, oui, oui, j'accepte complètement ça.
Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Jusqu'à quel point c'est structuré en fait tout ça, c'est-à-dire jusqu'à quel point tu avais cette envie de construire une trilogie et qu'elle vienne comme ça à intervalles très réguliers en fait, parce que tout ça semble extrêmement structuré en fait quand on regarde ta filmographie en fait. On a l'impression que c'est je vais caricaturer, mais un film pour eux et un film pour moi en fait, c'est-à-dire qu'il y a des passages comme ça et des soupapes en fait, je sais pas comment trop les qualifier.
Mais c'est parce que j'essaie de forcer la porte et je n'y arrive pas. Alors le film pour eux, j'essaie de forcer la porte mais je n'y arrive pas, alors je reviens à ce que finalement j'arrive à faire le mieux. Et puis je vais me concentrer sur ce que j'arrive à faire le mieux en fait aujourd'hui. Mais pour revenir à ta question, je crois que il n'y avait pas vraiment d'idée de la trilogie avant la mise en chantier de Alléluia. J'ai dû balancer ça à un moment donné à un journaliste qui a repris ça. Et puis Alléluia a été annoncé comme le deuxième volet d'une trilogie. En même temps, aujourd'hui, à la fin de Adoration, on voit bien que thématiquement, artistiquement, géographiquement et poétiquement, c'est hyper cohérent. Donc oui, je l'accepte complètement, encore une fois.
C'est super, on est validé.
Mais arrive un autre projet que je tourne au printemps, qui s'appelle Inexorable, avec de nouveau une Gloria. Et je me demande où ça va me mener, en fait, tout ça. Donc je ne sais pas très très bien si ça va être si la trilogie s'arrête là, ou si c'est le début de quelque chose d'autre, ou si c'est une tétralogie. Je sais pas, mais bon, tout ça, de toute façon, on s'en fout, ça peut paraître un peu pompeux. Mais en tout cas, je travaille à mon cinéma, cher Julien.
Non, mais parce qu'on peut voir forcément des échos, et puis comme quelque chose qui se termine peut-être, ou en tout cas qui se complète, en fait, entre ces trois films. Enfin, c'est difficile maintenant, pour moi en tout cas, de les appréhender les uns totalement séparément des autres, quoi.
Pourtant, on peut, hein, très facilement.
Mais on perd quelque chose, non? T'es pas d'accord avec ça?
Peut-être. Je n'ai pas revu les enfin, je pense pas le faire d'ailleurs, mais les trois dans la continuité. Mais quand je ferme les yeux et quand j'imagine en fait l'ensemble de ces trois films, j'y vois pas mal de cohérence et j'y vois vraiment des jolis ponts. J'y vois des jolis ponts suspendus. C'est-à-dire que j'y vois vraiment un beau geste poétique et cohérent. Pas que je suis particulièrement fier de mon travail, c'est juste que je me dis que, voilà, de manière intuitive, en tâtonnant, en travaillant avec, sur un terrain et sur un terreau qui est un peu thématiquement un peu le même à chaque fois, mais avec le temps qui passe et avec l'apprentissage des erreurs, des sorties de route, hein, comme vous savez, il y a eu des sorties de route violentes. Voilà, ici, c'est, ce film est plus sensible, il m'apparaît plus sensible, il m'apparaît plus fragile aussi. Il y avait une volonté dogmatique d'être plus simple, d'être carrément pauvre, enfin pauvre dans le geste hein, de cinéma, c'est-à-dire presque un geste rossellinien, c'est-à-dire un film qui soit complètement épuré.
Éthéré presque, moi, je trouve.
Oui, complètement. Donc il y avait cette volonté-là, cette volonté, et aussi c'était une volonté qui me ramenait à ma propre enfance et à la difficulté que j'ai parfois de creuser la fibre fragile, en tout cas. Parce que j'ai toujours l'impression, enfin, je me suis toujours rêvé comme un maverick qui dansait un peu sur des volcans, à gueuler, à me prendre un peu pour Samuel Fuller, à vivre un peu des choses comme ça de manière intense et bouillonnante et passionnée, etc. Et là, je voulais faire un peu le même procédé, mais de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le volcan est éteint?
Non, le volcan n'est pas éteint, absolument pas. Non, mais c'est-à-dire que pour appréhender le chemin qui reste, j'avais besoin de me confronter à ma propre enfance et d'épouser véritablement le regard. Parce que Adoration n'est pas un film sur l'enfant, c'est un film à hauteur d'enfant. Et c'est très différent. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'épouser le regard complet d'un enfant et d'un enfant prépubère et lumineux, et en même temps assez troublé. Enfin, on ne sait pas très très bien. Enfin, il a une sorte de lumière, il a une espèce de... Pour avoir un référent littéraire qui est l'idiot, le prince Michkine de Dostoïevski, donc il a une espèce d'empathie sur le monde, et en même temps, cette empathie est contaminée par un amour sauvage et une maladie qui le sauve par l'amour ou par la folie. Donc je, voilà, tout ça... Mais pour revenir à la question, c'est ça, c'est me déstabiliser. En fait, je cherche toujours à me déstabiliser. Et je me suis déstabilisé comme ça cette fois-ci. Mais plus de l'intérieur.
Justement, dans la question que posait Julien à l'origine, bon, par exemple, si on prend les problématiques que tu as vues sur Call 45, ça a vachement nourri le feu et la passion d'Alléluia. Et là, en fait, tu l'abordes de manière beaucoup plus apaisée, en fait. Bon, t'as pas eu la même problématique, on va dire, ce Message from the King, mais t'as quand même eu, on va dire, un peu plus de soucis que sur tes films à toi. Et du coup, en fait, on a l'impression que tu l'abordes de manière plus apaisée. Et en fait, moi, je me demandais aussi jusqu'à quel point, parce que tu l'as un peu dit, là, ça se référait à ton enfance à toi. Et éventuellement à ton premier amour, parce que c'est l'histoire d'un premier amour, en fait, le film, clairement.
Oui. Alors, le premier amour, c'est-à-dire qu'il est un peu... Il nous concerne un peu tous. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été des adolescents prépubères foudroyés d'amour à un moment. Et cet amour, à un moment donné, il prend une place incroyable. On vit tous une sorte d'épiphanie amoureuse. On est tous en contact avec ça à un moment donné. Et c'est quelque chose qui bouleverse les sens. Et je crois que c'est quelque chose qu'on cherche perpétuellement à retrouver. C'est quelque chose qu'on perd et qu'on cherche inlassablement. La part manquante, c'est-à-dire inlassablement, on est en recherche, nous sommes en recherche de ça. Nous sommes en recherche d'altérité, on est en recherche de la part qui manque. On apprend de nous-mêmes par le regard de l'autre, et non pas l'inverse. Je pense vraiment que ce qui nous définit, c'est le couple, c'est-à-dire c'est l'altérité, c'est ce qu'on voit dans le regard de l'autre. On se réfléchit à travers l'autre. Et donc, c'est pas stricto sensu... mon histoire, évidemment, parce que je suis loin du petit gamin qui est Paul. Tu t'imagines bien que j'étais beaucoup moins innocent et beaucoup moins lumineux.
Ah, on va prendre des trucs. Ça va devenir croustillant.
Non, mais en tout cas, je me projette dans cette pureté-là. dans cette et dans ce désir d'absolu là. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je me projette complètement là-dedans. Et je pense que c'est un. La dernière fois qu'on s'était vu, je me souviens que tu avais dit qu'Alléluia était un tournant. Je pense que c'est un nouveau tournant, véritablement. Je pense que je ne vais plus rien envisager de la même manière. Ça ne veut pas dire que je vais faire un cinéma plus chiant, plus sage ou plus apaisé. Je pense que les tourments sont toujours là. Mais en tout cas, si tu veux, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est comment refaire un film pas en pilote automatique. Tu vois, là, maintenant, on commence un peu à avoir de l'expérience et ça pourrait être... Je pourrais faire des choses peut-être un peu plus apaisées, un peu plus... Voilà, moins en souffrance. Mais au fond, je recherche toujours la même chose. Je recherche, non pas parce que peut-être que j'ai une appétence un peu à la souffrance, hein, mais c'est mon côté un peu doloriste, quoi. Mais je cherche véritablement, en fait, à me mettre en danger quand je fais un film. Alors, il y a danger et danger, hein. Je ne vais pas éteindre des feux en Australie, ni me battre en Iran, mais... Je cherche en tout cas à me déstabiliser profondément parce que ça m'apprend énormément sur moi-même, profondément en fait.
Se déstabiliser là, donc c'était quoi? C'était retrouver donc cette part, faire cette espèce d'autobiographie sensitive en fait de ton enfance. C'était.
Mais c'est la brèche, c'est-à-dire que si tu veux, le truc c'est que j'ai grandi moi dans des collèges catholiques très stricts. J'ai eu une enfance non pas. Pas malheureuse, hein. J'ai une enfance plutôt heureuse, mais dans un cadre très rigide, très strict, très. Et donc je vois bien que la part d'intime, ma pudeur est quelque chose qui m'empêche souvent de m'exprimer tel que je le voudrais. Je vois bien qu'avec le temps, même dans mes histoires d'amour, même dans mes amitiés, il y a une part de pudeur qui me retient. Et ça, c'est. On a tous grandi dans des contextes différents et on a tous des casseroles et on a tous étouffé des choses. Ben moi, j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression souvent qu'il y a des choses que je ne me suis pas autorisé à faire. Tu vois, par exemple, j'ai revu Vignane parce qu'il y a une rétrospective en Belgique. Je l'ai revu en 35 mm dans une salle pleine. D'ailleurs, j'étais très heureux avec des jeunes gens. Mais j'ai vu à quel point ces deux films se répondaient et j'ai vu aussi à quel point je peux masquer, je peux dégueuler en fait dans des excès de glauquerie ou de caméra, alors que j'aurais pu être beaucoup plus me mettre à nu beaucoup plus. Et j'ai l'impression ici que ce travail-là en 10 ans, en 10-12 ans, a été fait. C'est-à-dire que c'était une volonté de me mettre plus à poil, d'être vraiment à l'os. De me dire, voilà, maintenant, vas-y, quoi. Et c'est pour ça que ce tournage aussi a été... Enfin, surtout la préparation a été aussi... ça a été aussi ténu pour moi, parce que j'étais vraiment à poil. Donc, j'avais pas cette assurance, ouais, on y va, blablabla, tu vois, enfin, que je peux avoir sur certains films, parce que je suis profondément un meneur de troupe. Je vois que j'arrive à fédérer autour de ma vision, je fédérais les équipes, etc. Et là, mon équipe, qui a l'habitude de travailler avec moi, voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était plus fragile. J'étais plus fragile, plus fragilisé. Ça ne veut pas dire que j'étais comme...
C'est-à-dire quoi? Plus indécis, peut-être? Que tu cherchais plus des choses?
Je cherchais plus des choses, ouais. Mmh. Je cherchais quelque chose, je laissais beaucoup plus de place aux enfants. J'ai mis beaucoup de précautions et beaucoup de temps à les choisir. Et puis après, je leur laissais énormément, énormément de place. Parce que je pense qu'ils ont contribué de manière totale à la construction de ce film. Je n'aurais pas pu faire le même film sans eux.
Mais justement, alors comment est-ce que ça diffère par rapport à ta direction d'acteur sur les autres films? Parce que souvent, tu disais que quand tu allais chercher les acteurs, et avec la caméra, en fait, t'allais vraiment, vraiment très, très près d'eux. Limite à être à côté d'eux en fait quand ça tourne. Comment ça se passe avec des enfants? Parce que ils sont pas aussi expérimentés dans l'absolu, mais en plus je pense qu'ils sont à fleur de peau. C'est beaucoup plus difficile en fait de les. Alors est-ce que ça a changé en fait pour toi ce fonctionnement? Tu dis que tu leur as laissé plus de d'espace, mais ça change par rapport à la direction d'acteur?
Alors Stéphane, le truc c'est que j'ai la chance en tout cas. C'est le tournage probablement le plus facile que j'ai pu faire. Il a fallu trouver la bonne connexion avec les enfants. Il a fallu trouver construire le bon pont. Il a fallu gagner leur confiance. Il a fallu vraiment les apprivoiser. Je les ai jamais infantilisés. Ils étaient vraiment avec moi. On a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. C'était un bel été. Il se trouve que mes enfants étaient sur le plateau. Ils ont lié des liens très, très étroits avec mes propres enfants qui ont peu ou prou le même âge.
C'est intéressant, ça.
Oui, mais vraiment, ils étaient très, très proches. Donc, il y a eu quelque chose de très poreux, de très familial. C'est des gamins que je vois souvent, avec qui j'en ai deux, j'en ai quatre. Maintenant, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous me connaissez un peu, vous savez bien que je ne suis pas langue de bois. Quand ça se passe mal, je le dis, mais quand ça se passe bien, ça se passe très très bien. Je vous le dis aussi. Là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable sur ce tournage. Et ils se sont complètement abandonnés à moi, mais complètement. C'est-à-dire que je pouvais les investir complètement. Je n'ai jamais eu cette chance-là, parce que souvent les acteurs adultes sont plus difficiles, ont plus d'ego, ont plus de réserve, ils ont leur pudeur aussi. Enfin voilà, c'est plus compliqué. Ils sont moins malléables. Les enfants se sont abandonnés. Et en même temps, ils étaient absolument convaincus de ce qu'on faisait, déterminés. Je crois que ce sont deux gamins qui sont profondément des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont une haute idée de ce qu'ils font. Ils se projettent dans un avenir. Ils sont déjà vachement structurés. Ils ont vraiment... ils vont pas se contenter, ils vont pas aller faire du Cobu ou d'autres conneries comme ça. Ils ont vraiment une haute, haute idée de leur art. Et ça, c'est vraiment formidable.
Et comment vous les avez choisis, justement, ces deux acteurs-là, Thomas et Fantine, je vais dire une bêtise. Oui.
Toujours la même chose, un processus, beaucoup. C'est un processus de casting.
Vous avez très attention à ça. Donc, qu'est-ce qui a décidé que c'était ces deux enfants-là ?
Il y a une sorte d'évidence, c'est-à-dire que Fantine, on voit bien, moi je l'ai rencontrée, elle était beaucoup plus jeune, c'était en 2017, elle partait pour Cannes sur le film d'Haneke, que je n'avais pas vu. Je l'avais juste vu avant, sans savoir qu'elle avait fait le Haneke et qu'elle avait fait différentes choses. Je voyais déjà le potentiel de cette petite qui était absolument concentrée et avec une écoute particulière et puis ce physique extraordinaire. Elle a des yeux incroyables, on dirait... un mélange étonnant entre Jodie Foster et Isabella Gianni, quoi. Il y a quelque chose de complètement incroyable, d'irréel. Donc j'étais assez fasciné par son physique, sa grande puissance émotionnelle. Et donc très très vite, j'ai validé Fantine. Et on devait tourner à l'été 2017, le film a été reporté comme ça arrive souvent. Il se trouve qu'elle a gagné en maturité et je pense que ça a été très utile pour le film. Puis après, il a fallu trouver Thomas, enfin le petit Paul. Et là, ça a été vraiment un gros, gros travail parce que je cherchais un gamin qui soit profondément singulier, qui ait une vie intérieure très, très forte. Donc, j'ai rencontré énormément de gamins dans les castings traditionnels, mais très vite ça m'ennuyait parce que dans les castings traditionnels, on sent beaucoup les parents derrière qui poussent le gamin et disent allez, vas-y, rends-nous riche.
Swing star, vas-y, vite.
Et donc très vite, je me suis dit mais c'est horrible, je vais aller voir dans les foyers, dans les orphelinats, dans les centres. Et j'ai parcouru un peu le nord de la France, je me suis beaucoup baladé en Belgique pour aller voir dans des institutions. J'ai vu des gamins vraiment dans des états émotionnels incroyables, avec des histoires absolument insensées. Ça m'a beaucoup enrichi aussi de parler avec ces gamins, de passer du temps avec eux, de les concerner. Mais je voyais que c'était des gamins, j'en ai retenu quelques-uns, mais qui étaient trop instables. Ils n'avaient pas cette faculté de concentration. Et au bout du bout, est arrivé un email d'un de mes camarades d'un site très connu que vous devez connaître au Canada, qui s'appelle Ion Cinema. Éric Lavallée, qui est un copain, il savait que je cherchais un gamin. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Je viens de voir un film à Venise. J'ai vu un gamin extraordinaire. Je pense que tu devrais le rencontrer. » Et j'ai rencontré... Je trouvais que je connaissais l'agent de Thomas, Pauline Rostocker. Je lui ai envoyé un message. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer le film. Et donc, j'ai vu Jusqu'à la garde bien avant tout le monde. D'abord, j'ai été frappé par la beauté et la grande tenue du film. Et puis, j'étais j'étais vraiment très intéressé par Thomas, quoi. Il avait quelque chose. Mais c'était un enfant. Dans Jusqu'à la garde, c'est un enfant.
Il était tout petit, ouais.
Voilà. Et donc, quand j'ai vu arriver avec sa maman, pas un jeune adolescent, mais il était déjà un peu plus fait, quoi. Et il y a eu un moment comme ça de discussion avec Thomas. Il semblait très timide et je lui posais la question. Il ne parlait pas beaucoup. Je lui disais, mais comment tu vas faire ? Comment tu vas appréhender un personnage comme ça ? Il avait lu le scénario, il avait beaucoup aimé le scénario, la maman aussi. Et Thomas m'a juste dit, mais je ne sais pas très bien comment je vais faire. Je lui dis, mais tu as bien une idée, comment tu imagines ce personnage ? Il m'a dit, non, je ne sais pas, je vais juste écouter. Alors là, je veux dire, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps. Je me suis dit, ça y est, je l'ai.
Ça ressemble énormément au personnage, quoi. Déjà, cette réponse, c'est complètement tout à fait ça. Ils ont eu un impact sur leur personnage, du coup, une fois que tu les as castés, ça les a. Parce qu'on a quand même l'impression d'avoir. Que tu as trouvé juste les acteurs idéaux pour la vision mentale, en fait, que tu avais pas du tout, qu'il y a eu un va-et-vient, en fait, entre ce que toi tu avais imaginé et ce que les personnages sont devenus une fois que tu les as castés. Quoi.
Non, non, ils étaient. Enfin, après, ça reste des enfants très rieurs, très, très vivants. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tu vois, ils étaient très concernés par le geste de cinéma, le geste poétique, l'incarnation des personnages. Et surtout, ils voyaient que je travaillais, que je ne leur imposais rien. C'est-à-dire que, bien sûr, on a fait des lectures, mais sur les scènes, je leur disais jamais, vous devez connaître votre texte. Je m'en foutais complètement. Je voulais simplement qu'ils aient l'intention de la scène. Et puis après, j'improvisais énormément avec eux. Alors, toujours de la même manière, je suis dans leurs pattes, j'interviens, je les stimule d'une manière ou d'une autre. Et il y avait des fulgurances, quoi. Vraiment des fulgurances étonnantes. Fantine, la même chose. Sur les scènes de crise, ben, je la poussais. Je lui ai montré quelques films en amont.
Lesquels, par exemple?
Bah, Possession.
Ouais. Possession, non?
Possession, L'Exorciste, L'été meurtrier. Des films comme ça. Des films de rupture. Et donc, je cherchais, en fait, la lumière et les ténèbres chez Fantine. Et je cherchais le paradoxe dans la même seconde. Et en la poussant, en la stimulant beaucoup, on est arrivé à des choses assez incroyables. Et parfois, je la poussais loin, hein, vraiment. L'équipe était un peu comme ça. Mais je leur disais, les gars, je vois dans l'œil de Fantine que je peux y aller. Et donc, Fantine, allez loin. Il fallait un petit peu de temps pour qu'elle redescende. Et puis, une fois qu'elle était redescendue, elle allait jouer avec Thomas, avec mes gamins, et la vie reprenait. Et je lui disais, ça va, chérie, ça va? Oui, pas de problème, t'inquiète, tout va bien. Donc, il y avait vraiment quelque chose comme ça qui était très. Qui allait dans le même mouvement. J'ai rien forcé.
Il y a une distinction quand même, en fait, avec les films que tu as cités, en fait, que tu lui as montré. C'est que c'est des films ouvertement, bon, pas L'été meurtrier, mais ouvertement fantastiques, par exemple. Alors que là, en fait, on peut dire que ça traite de la bipolarité, en fait, quelque part. C'est un peu ça, sa problématique au personnage. Et du coup, est-ce que, justement, en dehors des films, toi-même, déjà, est-ce que tu t'es renseigné là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté, éventuellement dans un amour ou un truc comme ça? Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais utiliser cette...
En amour, j'ai rencontré quelques...
Quelques personnes
quelques
comme ça.
Quelques personnes, pas comme ça, pas dans ces excès-là, mais je pense qu'on rencontre tous, et on est probablement soi-même un peu bipolaire en amour. Mais en fait, j'ai jamais voulu faire un postulat réaliste, tu vois, de la maladie mentale. Et je me souviens que quand on a rendu le projet au CNC, donc pour avoir l'avance, les retours de les fiches de lecture après refus, c'était la schizophrénie enfantine n'existe pas.
Ah bon?
Non, mais je dis les mecs, mais vous êtes frappés, quoi. Vous êtes frappés. Donc moi, j'ai jamais voulu faire un film réaliste. On voit bien que je suis pas un réaliste. Je m'ancre dans une sorte de naturalisme, mais après, je tends vers quelque chose.
C'est fou, incompréhension. Mais oui, mais maintenant, c'est incroyable.
On voit ça partout, tout le temps. Hein, je veux dire, mais c'est pas très grave. Après, certaines personnes, par exemple, en Q&A, donc en questions-réponses en avant-première, me posent énormément de questions sur la maladie mentale et parfois me confrontent par rapport à ça. Mais je dis, mais chère madame, cher monsieur, je n'ai absolument pas voulu faire un diagnostic ou c'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'est un gamin qui se confronte à quelque chose d'hostile et qui lui échappe à cette gamine. Quelque chose qui la submerge. Elle est probablement très sincère dans son amour, mais elle est submergée par quelque chose, par un diable, par quelque chose de l'intérieur. Et cette intériorité va contaminer aussi le petit Paul. Qui lui aussi va être, à un moment donné, va être soumis au doute, à l'effroi, à la duplicité, au mensonge, et qui en même temps va englober tout ça pour le transcender et tendre vers l'absolu, vers l'amour absolu, et la fin et va complètement dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est de l'amour absolu ou est-ce que c'est une folie?
Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, je vais parler cliniquement. En fait, le problématique de la bipolarité, une des problématiques, c'est qu'en gros, la personne qui est bipolaire, elle vit 40% ou 50% de plus, en fait, les émotions qu'elle ressent. Alors, pour quelqu'un comme toi, en tant que réalisateur qui va chercher justement ces trucs-là, c'est assez intéressant d'utiliser comme un outil, j'ai envie de dire narratif en fait, et d'utiliser ça. C'est pour ça que je m'interrogeais en fait sur l'éventuel vécu, ou si en fait tu t'es posé ces questions-là avant de faire ce choix en fait avec ce personnage.
Non, je pense pas, non. Je suis toujours très attiré par les personnages borderline, c'est sûr. Et dans le prochain, il y a de nouveau une Gloria qui est complètement borderline. Mais c'est autrement, c'est autre chose. En fait, c'est... Et encore une fois, je pense pas avoir les réponses à ces questions-là, parce que, tu sais, c'est compliqué quand on est en promo. Bon, avec vous, c'est un peu différent, mais j'ai pas de regard forcément pertinent sur mon travail. Hein. Je sais pas très bien d'où ça vient, je sais pas comment ça se passe, comment... Ce ne sont que des intuitions, et à un moment donné, ces intuitions forment un tout. C'est comme, tu vois, Julien, ce que tu disais par rapport à la trilogie. Les choses se cristallisent, en fait. Bon an, mal an, ça se cristallise et puis ça forme un tout, et je trouve le sens. Je peux avoir une idée du sens, mais je ne l'ai pas complètement en amont. En fait, j'arrive à trouver le sens de ce que j'ai voulu faire à la fin, vraiment à la toute fin, avec la contribution vraiment très très marquée et très puissante de mes collaborateurs. C'est-à-dire, c'est comme un peu un artisanat, on pose brique par brique, alors il y a une vision, il y a un souffle, il y a une volonté. Il y a des archétypes, et dans ces archétypes, j'essaie de trouver quelque chose. Mais en tout cas, ce que je sais c'est, sur ce projet, c'est que, un, je voulais creuser cette fibre intime, mais qui n'est pas forcément autobiographique. Et puis, cette innocence, cette pureté, qui peut basculer aussi dans la folie, parce que tout ça est assez ténu, tout ça est poreux, quoi.
Ce qui était intéressant, c'est que vous parliez de trilogie, on va parler de trilogie, et de réalisme. Et c'est vrai qu'ils sont assez difficiles. Et Stéphane mentionnait le fait qu'on ne peut pas le qualifier de film fantastique, contrairement à d'autres films. Mais dans les trois films, que ce soit Calvaire, que ce soit Alléluia et La Adoration, on sent qu'au départ, on part d'un postulat relativement réaliste en soi. Le point de départ à chaque fois est très ancré dans une forme de réalité. Et finalement, il y a un glissement qui s'opère en permanence chez tous ces personnages. À un moment donné, comme si le personnage principal finit par refuser le réel, ou en tout cas ne plus adhérer à ce réel. C'est assez intéressant de voir que dans les trois films, volontaire ou pas, il y a ce glissement qui s'opère. C'est quelque chose qui... C'est cet abandon du réel, c'est ce qui vous intéresse ?
Oui, mais on peut parler de Vignane aussi, hein, qui est un film que j'affectionne beaucoup, qui est loin d'être parfait, hein, mais c'est aussi un glissement dans... en fait, c'est toujours un glissement dans les tourments. C'est-à-dire que le réel... se déconstruit dans une forme... Ou alors c'est l'intériorité qui contamine l'extérieur, ou alors c'est l'extérieur qui contamine l'intérieur. Mais ça, je le fais pas de manière thématique. Je me dis pas « Ah, je vais faire ça, comme ça, machin, etc. » C'est-à-dire que je construis plus comme un plasticien, comme un... Je travaille plus la matière. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse profondément, c'est que le trouble, à un moment donné, s'étiole dans l'environnement.
D'où l'aspect naturaliste.
Oui, d'où l'aspect naturaliste. En fait, pour être tout à fait clair, hein, je veux dire... c'est-à-dire que c'est vraiment un travail en amont, de repérage, de texture, de matière, de source, une source, préparer un espace qui soit un espace vide, matiéré, hein, visuel, intéressant... mettre des comédiens là-dedans, donc des corps, des gueules, des peaux et des yeux. Et après, c'est sonder l'âme, la faire dégueuler, en fait. Et quand je dis dégueuler, c'est un peu violent, mais c'est pour, en fait, rendre concret et rendre physique l'indicible. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là, c'est-à-dire au plus j'avance, au plus je me dis, je travaille en amont, mes décors, mais les corps de mes acteurs, j'essaye de rendre tout ça possible. Et après, quand je suis sur le plateau avec eux, j'essaye d'aller le plus loin possible pour vraiment faire dégueuler, faire surgir d'eux quelque chose que je peux arriver à capter. Et je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est l'ambition, c'est capter l'indicible. Et ça me passionne vraiment. Ça me passionne parce que c'est un travail d'artisan, c'est un travail de plasticien. Moi, je n'ai pas des grandes idées sur... Enfin, je ne suis pas complètement idiot, hein, je peux avoir des idées sur certaines choses, ou en tout cas des intuitions, mais je n'ai pas de... Je n'ai pas, en tout cas, cette cérébralité. Voilà, il y a des réalisateurs absolument incroyables qui ont un sens cerveau, quoi. Bong Joon-ho, Parasite, c'est un film cerveau. On voit bien que c'est implacable. Park Chan-wook, pareil. Enfin, on voit bien que c'est des... Voilà.
Ceci étant dit, il y a quand même un ou deux trucs intéressants par rapport à ça dans Adoration, c'est que chaque élément qu'on pourrait dire, je sais pas, des climax de... pas horrifique, parce que c'est pas horrifique en fait dans le film, mais disons deux, trois passages à l'acte, j'essaye de pas trop spoiler, voilà, qui est notamment par exemple là, avec la directrice de l'école au début, ouais. Ce genre de choses où on voit une, quand même une petite influence de genre, là, on va
oui,
dire,
oui,
il y a clairement un peu de Suspiria là-dedans, un peu de tout ça. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a trois, quatre moments comme ça clés dans le film, dont on va dire si c'était un film de genre à proprement parler, c'est-à-dire qui s'inscrivait là-dedans, en fait, ça serait le nerf de la guerre. Et c'est-à-dire tu les utiliserais vraiment comme des points dramatiques. Or, en fait, ce qui est assez étonnant, je trouve, et en fait, finalement, c'est qu'en fait, tu choisis de ne pas expliquer l'issue. C'est-à-dire tu dis jamais, tiens, cette personne est morte, ou tiens, cette personne a survécu, ou tiens, par rapport au drame en fait en question, ce qui fait que ça élude absolument pas l'amour que peuvent ressentir les deux personnages.
Et c'est clairement des moyens, en fait.
Voilà, je me demandais à quel point c'était, pour le coup, conscient aussi, de se dire, ok, je sais qu'il y a des éléments comme ça dans mon film, mais j'ai pas envie en fait d'en faire
c'est pas l'intérêt, quoi.
Quelque chose de plus dramatique que l'aspect dramatique de l'amour.
Mais parce que le point de vue est unique. C'est-à-dire que le point de vue est absolument unique. Tu vois, par exemple, moi j'ai toujours eu l'intuition que le point de vue devait être unique. Par contre, pendant le financement du film, souvent les gens me disaient « Oui, mais il n'y a pas d'antagonisme. » Je disais « Mais l'antagoniste, c'est Gloria, qu'est-ce que vous m'embêtez ?» Je dis « Non, il faut un antagoniste plus fort, la police, l'oncle, les recherches, etc. » Et à un moment donné, Manuel Chiche, mon coproducteur et distributeur, m'a convaincu en fait, de ça. Il m'a dit « Mais écris-le, on verra. Voilà. » Donc je l'ai écrit. Mais même en l'écrivant, je me disais « Mais
ça ne sert à rien. »
Ça ne sert à rien. Donc, je ne voulais absolument que épouser le point de vue du petit Paul. Ça me semblait être la chose à faire. Ça me semblait... Donc, effectivement, il y a des choses... c'est pas un point de vue omniscient. Et je ne voulais pas être omniscient. Je voulais être que dans la voix du petit Paul. Ce n'était que mon regard. Donc, voilà, ça génère ça, ce que tu dis. À mon avis, hein, ça génère ça. Donc, je ne voulais pas expliquer la mort... ou pas de la directrice, sauf qu'elle était expliquée à la fin. Il y avait une fin qui a été écrite et qui était autre que celle qu'on a aujourd'hui, qui était plus triviale, c'est-à-dire que le gamin était dans un foyer 6 mois plus tard, et après tout, après leur cavale, et était confronté par un juge, donc Béatrice Dalle, qui faisait la juge, et qui confrontait le gamin par rapport à la mort et par rapport à l'idée d'un sacrifice. Enfin, je ne vais pas spoiler tout ça, enfin, ça ne sert à rien.
Parce que ça c'était tourné ?
On l'a tourné, et c'était très bien. Hein. C'était vraiment une fin intéressante aussi, possible en tout cas, mais sauf que si tu veux... On l'a gardé en balance, elle est restée en balance pendant un petit moment, mais on a choisi de rester en l'air, on a choisi de rester dans le mouvement qui englobait les quatre éléments, leur amour fou et ce regard qui enfin convergeait et non plus divergeait. C'est-à-dire que là, ils sont, tu vois, l'eau est devenue le feu est devenu l'eau dans un ensemble cohérent. Ils regardent ensemble dans la direction d'oiseaux qui s'envolent et qui prennent complètement un envol incroyable. Donc, il y avait un geste poétique, il y avait un geste de cinéma qui me semblait très, très puissant. Hein. Après, chacun, je laisse libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Et donc, revenir au réalisme et à la trivialité, voilà, à un moment donné, et c'est une longue discussion qu'on a eue. Moi, j'avais peur de me séparer de cette fin parce que j'avais plus envie qu'on me dise « Oui, mais Duel, si c'est pas terminé ses films, blabla, il reste toujours dans les trucs. » Donc, j'avais envie de quelque chose qui finisse. Et puis, à un moment donné, un camarade, pour le nommer Bruno Bard, a beaucoup, beaucoup milité pour qu'on coupe cette fin. Et je pense que Bruno avait raison. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu de la fin qu'on a. Ouais.
Ça contribue au côté éthéré, encore une fois, du film. Quoi,
tout à fait.
Mais ça t'embête pas, toi, par exemple, que dans ton processus d'écriture, en fait, tes partenaires, peut-être, Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une question, c'est une façon de t'enfermer dans un truc. On va dire, mais il faut qu'il y ait de l'antagonisme. On n'a pas besoin d'antagonisme dans une histoire d'amour.
Oui, mais dire, c'est pas... Va dire ça au Pecno de Canal Plus. Va dire ouais. ça.
S'il nous
va
écoute,
dire ça.
Hein.
Non mais franchement, va dire ça aux Pecno qui font des fiches de lecture et qui sont lobotomisés quoi. Et en fait, c'est complètement fou. C'est-à-dire que la dictature du scénario aujourd'hui a pris une telle dimension. Qu'on ne voit plus. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait faire un peu plus de place aux metteurs en scène, au cinéma. Ils veulent tous, tu vois, rentrer leur petit film dans leur case. À un moment donné, bah, forcément, on voit bien la dégénérescence de Canal. Parce que, effectivement, tous les mecs, ils veulent le film du lundi soir, le film du mardi soir. Alors, mercredi, c'est polar, jeudi, c'est spaghetti, et vendredi, c'est film dramatique. Voilà, donc on est là-dedans. On est dans des cases, on est dans un truc, etc. Et donc, je vois bien la limite de mon propre cinéma aussi, mais moi, je veux pas m'enfermer dans une case, je veux pas qu'on me mette dans une case. Je veux être un cinéaste libre et je veux faire un cinéma libre. Mais en même temps, quand mes camarades me disent « Ah, ce serait bien quand même que pour telle commission, tu fasses ça bah, », il faut bien, à un moment donné, jouer un peu le jeu. Mais après, en montage, tu fais ce que tu veux, t'es peinard.
Mmh, ça va être dur pour toi, quand même, ce type
de... Bah oui, mais l'époque est dure. Elle est dure pour moi, pour nous. Mais l'époque est dure.
Même avec un acteur, par exemple, même si c'est un second rôle, là, en l'occurrence... Comme Poulvord, qui est quand même bankable, on peut le dire, voilà, et que tu récupères dans ton giron, et en plus, tu en fais quelque chose de finalement assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'adore Poulvord, hein, je pourrais regarder n'importe quelle comédie française de merde avec Poulvord, mais malheureusement. Mais le truc, c'est que là, ce qui est bien, c'est que tu l'utilises comme un personnage vraiment tragique.
T'as écrit pour lui ?
Il n'y a pas de fanfaronnade, en fait.
Non, mais moi, les gars, vous prêchez un convaincu. Benoît Poulvord, c'est je cours après depuis 15 ans.
D'accord.
Je cherche à avoir Benoît depuis 15 ans dans mon cinéma. C'est compliqué. Il ne voit pas de film, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et je ne sais pas pourquoi il a dit oui, là. Je te jure, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit OK, d'accord. Je dis, mais il n'y a pas d'argent.
Ça fait sens, en fait, de vous retrouver, quoi, en fait. Là.
Ah, bah oui, mais moi, j'aimerais beaucoup continuer à travailler avec lui, hein, très franchement.
Mais tu as écrit pour lui, du coup ?
Non, j'ai pas écrit pour lui, mais j'y pensais toujours. C'est-à-dire que. Et puis aujourd'hui, je trouve que Benoît prend une stature un peu à la Michel Simon. Mmh. Il a une texture comme ça, une voix, une singularité. Je pense que dans le cinéma français ou d'expression française, il y en a peu.
Puis il est très incarné, surtout dans ton film, quoi. Son corps est là, quoi, très présent comme Simon, quoi, justement.
Ouais, absolument, truc... absolument. Mais je l'aime beaucoup. Il est difficile, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup.
Mmh. Moi, je voulais qu'on parle un peu du travail sur les décors, en fait, sur ce film en particulier, parce que j'ai eu la nature est tellement importante, en fait, dans Adoration. Je me demandais, en fait, comment tu avais travaillé au corps, justement, cet environnement, en fait. Parce que c'est pareil, il y a quelque chose où on a l'impression que c'est peut-être moins... c'est plus naturel. Dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que ça coule de source, quoi, beaucoup plus. C'est moins fabriqué. On est très loin du décor final, en fait, de que tu pouvais construire en Thaïlande auparavant, en fait. On est vraiment à l'antinomie, en fait, de ça. Et comme de la même façon que tu travailles au corps avec tes comédiens et tout, pour moi, je me suis dit, mais comment ils travaillent, en fait, Fabrice, en fait, sur ces décors ?
Eh bien, on travaille beaucoup en amont, comme je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de long repérage. Alors, les repérages, c'est quelque chose, c'est un moment que j'aime particulièrement parce que je suis avec mon camarade qui s'occupe un peu de la direction artistique, qui s'appelle Emmanuel de Mellemeester. Et avec Manu, on part, on se balade, on parle un peu de tout, on parle de cinéma, on parle des femmes, on parle de la vie, quoi. On parle de tout ça et on va manger, on regarde, on rêve. Et donc, ça, c'est un long chemin. On définit des lieux, et puis ces lieux, on les investit. On les investit surtout en matière, en texture. Et les intérieurs, et puis après les extérieurs. Parce que les extérieurs, c'est la même chose, on les investit aussi. Mais il y avait une volonté de simplification ici. Et il y avait une volonté aussi de lumière. C'est-à-dire que, par exemple, tous les extérieurs, tu vois, comme on est un petit groupe, on n'avait pas beaucoup d'argent hein, pour faire le film, mais on est un petit groupe très soudé. Et le premier assistant comprend bien ce qu'on fait. Donc, bien sûr, j'ai pas la latitude de Malik qui tourne 30 minutes par jour. Hein, mais on était vraiment en place pour des lumières très spécifiques à certains moments de la journée pour choper une lumière qu'on souhaitait divine, quoi. Donc voilà, on était fort là-dedans. Puis après, il y a la fumée, il y a la pluie, il y a ces choses qu'on essayait de structurer, toujours en relation et en lien profond avec les tourments du couple, hein, leur avancée, leur cavale. Et les intérieurs, ben voilà, c'est ce travail de matière. Et c'est ce travail de source. C'est une source, comme les peintres flamands, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que jamais sur un de mes plateaux, tu verras un plafond technique ou alors des pieds à lumière, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est interdit. C'est vraiment même pas la peine. Moi, je veux que les comédiens aient une latitude complète, totale. Alors, parfois, vu le mouvement des comédiens, on change la source parce que ça raconte autre chose. Et la lumière, c'est ce qu'on oublie souvent, en fait. C'est le travail de la lumière, l'importance de la lumière, ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on perd complètement dans le cinéma actuel. C'est-à-dire que plus personne n'en parle. C'est vraiment un truc... On éclaire. Aujourd'hui, avec le digital, ils éclairent flat. Et puis après, ils commencent à faire des masques en étalonnage. Non, mais sans déconner, mais vous êtes fous, quoi. Non, mais c'est vraiment fou, c'est furieux.
Là, tu es en train de dire que tu as encore tourné celui-là en pellicule.
Ah, bien, monsieur, bien sûr, mais jusqu'à mourir, monsieur.
Non, mais je posais la question, est-ce que tu t'as cité Malick, mais même Malick, il tourne en numérique maintenant.
Oui, je sais, mais j'aime moins ses films aujourd'hui.
Ouais, c'est très beau, le dernier.
J'aime moins. Bon. Mais je respecte infiniment. Ouais. Je respecte infiniment et je suis béat d'admiration. Après, j'ai moins parce que il y a certains films de Malick que qui sont pour moi indépassables. Les Moissons du ciel, La ligne rouge, pour moi, c'est là, on touche à quelque chose qui est vraiment de l'ordre, oui, du sacré total. Ici, je sais que le film a été aimé par beaucoup de gens. Moi, j'y allais vraiment pour l'aimer. Je reviens un petit peu du film parce que j'y vois des manières, en fait. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, loin de là. Et puis, j'aimerais le revoir et le revoir posément. Et peut-être que quand je l'ai vu, ça n'allait pas. Tu vois, les films qu'on aime, il faut toujours les revoir, en fait. Je pense que c'est toujours important.
Mais sans partir forcément sur Malick, l'idée, c'est est-ce que justement, quand on a un petit budget comme celui-là, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus compliqué aussi encore de tourner en péloche
Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, il y a souvent des gamins qui me confrontent avec ça. C'est-à-dire que nous, on définit clairement les sources. Donc, on travaille vite. Hein, on travaille vite. Après, le problème, c'est que je tourne beaucoup. Et ça, c'est un problème pour les producteurs qui me font la gueule très vite parce que je tourne un peu comme en numérique, en pellicule. Mais là où je gagne beaucoup d'argent, c'est en étalonnage. C'est-à-dire qu'un film comme Adoration, c'est 3 jours ou 4 jours d'étalonnage.
Ah oui, c'est très peu. Hein.
Bah, forcément. C'est-à-dire que tout est étalonné, tout est pensé, la lumière est... Enfin, le problème aujourd'hui à tourner en pellicule, c'est que quand tu fais... comme les bains ne fonctionnent plus comme à l'époque, ton TC, il est un peu quand tu fais ton télécinéma pour faire ton montage il est un peu gris, tout est un peu fade. Donc à un moment donné, tu dis oh là là, mais j'ai peut-être fait une connerie. Les producteurs disent oui, l'image est quand même un peu grise, un peu. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et donc même toi, à un moment donné, parce que tu travailles longtemps sur cette image qui est un peu baveuse, quoi, qui est pas terrible, et vient le moment, le miracle des scans. Alors les scans arrivent. Et là, tu fais, mais mon Dieu, mais merci, mon Dieu, quoi. Enfin, ça devient sublime. Ça devient à un moment donné, tu vois, les couleurs primaires apparaissent, les bleus, les rouges. Enfin, ça devient absolument somptueux. Et puis après, nous, avec Dacos, tu vois, on se pignole pas pendant 107 ans. Ça va très, très vite.
Voilà. C'est aussi une manière de garder le contrôle sur ton film à la fin, parce que justement avec l'étalonnage numérique, tu peux complètement repenser le film. C'est incroyable. On voit
la gueule qu'ont les films aujourd'hui souvent. Ça,
je suis d'accord.
Franchement, le numérique, je pense pas que ça a aidé beaucoup.
On n'a pas encore trouvé l'esthétique, on va dire, du numérique.
Bah, Fincher, oui.
Ouais, mais bon, lui, c'est pourquoi il l'utilise depuis le début, quoi.
Mais Fincher, ok, il utilise le numérique absolument avec génie.
Non, mais il y en a, oui. Mais après, voilà, c'est juste que, en fait, je pense que tu rentres dans une espèce de logique où tu parlais des lecteurs de scénarios, mais en fait, on peut aussi, aujourd'hui, en fait, justement, avec la problématique du numérique, qu'on peut aussi te faire chier en post-prod, parce que tout se règle, en fait, voilà, et toi, ça te permet de garder un contrôle en tant que, entre guillemets, auteur du truc, quoi.
Oui, mais tu vois, ça, on revient à la question de la lumière. C'est-à-dire que quand tu as une source, en fait, c'est exactement la même chose que la peinture. Regarde les peintres flamands. Il y a la source, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. L'intention. En fait, c'est l'intention. Et très souvent, le problème, c'est que ça manque d'intention. Les films, il y en a. Il n'y a pas pour autant plus de cinéma. En tout cas, avec des intentions. Et je pense que la lumière est fondamentale à l'intention. Il y a ce qu'elle révèle, il y a ce qu'on cache, le paradoxe qu'on cache, le trouble qu'on cache, le trouble qu'on révèle à un moment donné. Et c'est ça, c'est cette alchimie-là, c'est ce trouble-là qu'on traque, nous, cinéastes, avec la lumière. On voit bien que la lumière, par exemple, chez Renoir, n'est pas la lumière chez Duvivier, tu vois. Chez Duvivier, bah, la lumière, elle est trouble, elle montre l'ambiguïté des êtres. Chez Renoir, la lumière, il y a Dieu dans la lumière. Elle célèbre Dieu, la joie de vivre, l'absolu. Et on voit bien que Voici le temps des assassins et Partie de campagne, c'est la lumière est utilisée différemment. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut penser la lumière. De temps en temps, je donne parfois des petits cours dans des écoles de cinéma et je parle inlassablement de la lumière parce que j'ai l'impression que les gens n'envisagent même plus la lumière comme un outil dramaturgique. Et je pense que la lumière est fondamentale à la dramaturgie et à l'évolution des personnages.
Ça, la lumière, c'est un truc qui peut venir au moment du tournage ou c'est quelque chose que tu définis très en amont, en fait ?
C'est quelque chose qu'on peut définir en amont, mais on peut se tromper, on peut réorienter les choses.
Évidemment, bien sûr. Ouais. Mais c'est un truc quand même sur lequel tu cogites pas mal avant d'arriver sur le plateau.
Avec des référents sur certaines scènes. Et puis après, tu travailles en bonne intelligence avec des collaborateurs, notamment ici, Manuel Dacos, qui devient vraiment un chef opérateur. Je trouve qu'ici, sur Adoration, il fait un film qui est absolument... en termes de photographie, qui a tombé par terre. Quoi.
Et c'est quelqu'un que vous allez retrouver pour votre prochain ?
Oui, absolument.
On arrive à la fin de l'émission, et c'est pour ça, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du prochain ?
Ben non, c'est compliqué parce que je peux pas...
Vous avez donné
pas...
le titre tout à l'heure.
Oui, mais je ne veux pas aller plus loin parce que le film est parti. Hein, mais sur le cast, le casting sera annoncé au Festival de Berlin, je pense. Et voilà, on est en cheminement, mais c'est toujours un peu la.
Ce sera en Belgique aussi.
C'est en Belgique, ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est un film plus, c'est plus un huis clos avec une unité de temps, de lieu, d'action. Ah. Voilà, c'est un peu ça. C'est un autre challenge, mais je reviendrai ici pour vous en parler.
C'est un changement assez radical, là, justement, encore une fois, par rapport à Adoration.
Oui, c'est autre chose.
D'être beaucoup plus resserré comme ça, ouais. C'est intéressant.
Ouais.
Je peux poser une question, Perrine, on n'a plus le temps.
C'est ta dernière, Julien.
Non, moi, je voulais qu'on parle du montage, du coup, parce que tu parles beaucoup du fait... On voit bien comment ça... Tu te saisis, en fait, du matériau, puis surtout le fait que tu tournes beaucoup, et que j'imagine que tu as énormément de choix, du coup, au montage, surtout avec les comédiens et leur interprétation. Et du coup, ça se passe comment, le montage ? Tu l'abordes avec une idée très précise, ou au contraire, c'est hyper... Enfin, tu te lances dans le brouillard et tu essayes de défricher un truc...
Non, je remets tout à plat.
Ouais.
Je remets tout à plat. J'ai une monteuse assez incroyable qui s'appelle Anne-Laure Guégan, qui est la patronne. Hein, vraiment, c'est ma patronne. Elle me contredit beaucoup. Elle me stimule beaucoup.
Est-ce que vous vous engueulez, du coup ?
On s'engueule, on a des divergences sur certaines choses. Mais Anne-Laure est vraiment quelqu'un de vraiment... elle a pratiquement toujours raison, hein, pour être tout à fait honnête.
Normal.
Mais c'est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que, surtout sur un film comme Adoration, Alléluia, j'avais eu le même problème. J'ai énormément de matière. Donc, il faut réécrire. Et puis après, il faut réécrire avec un certain équilibre. Il y a énormément de scènes dans Adoration qui sont pas dans le film, et des très belles scènes d'ailleurs, mais vraiment des scènes magnifiques. Je pense que quelques-unes seront intégrées au DVD. Mais voilà, c'est vraiment un autre travail. Il y avait des intentions que j'avais pendant le tournage du film que je n'ai plus du tout à la... le film fini. Il y avait par exemple sur la sincérité de Gloria, j'étais beaucoup plus... plus douteux. Il y avait quelque chose de l'ordre même de la manipulation, et ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment sous insistance répétée de Anne-Laure. Mais je l'écoute beaucoup. Je pense que souvent elle a raison. Et puis après, c'est des preuves à l'appui. Tu vois, c'est vraiment, on confronte les choses. Et donc voilà, ça se fait. C'est vraiment quelque chose qui est assez précieux pour moi, parce que chaque fois que je rentre chez moi pour faire les films, c'est toujours des grands, grands moments de bonheur, vraiment.
Grand moment de bonheur, je pense que c'est un beau mot pour terminer. Merci beaucoup Fabrice Duvels d'être venu nous voir. On vous recommande, comme vous l'aurez compris, Adoration, sorti le 22 janvier. Merci Quentin à la technique, Juliette à la préparation. Rendez-vous sur binge.audio pour retrouver l'ensemble des podcasts de Binge. Encore merci d'ailleurs pour vos petits mots sur l'adresse mail de nos ciné et sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt, je l'espère.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.